Oui, monsieur.
Bonsoir, merci. Monsieur Canoal, conférencier, vous avez bien expliqué en détail. Heureusement, parce que le peuple suisse a été abusé pendant 10 années en ces journaux bourgeois, et si ces terribles communistes qui foutent la pagaille en Suisse sont responsables. Enfin, par exemple, la vérité a fini par sortir. Moi, je vais poser une question précise. La grève générale a duré, je pense, 2 ou 3 jours, et Grimm, donc le comité Dalton, les ennemis l'appelaient soviet Dalton, a eu l'obligation de faire arrêter la grève tel jour à telle heure. Qui a donné cet ordre? Est-ce le Conseil fédéral? Est-ce l'armée qui était toute puissante? Parce qu'on sait que le général Mill avait un mépris pour les grévistes et lui aurait sûrement donné l'ordre de tirer et de massacrer les grévistes. Voilà ce que je voulais vous demander.
Je pense que c'est le Conseil fédéral qui a eu... Parce que les négociations étaient quand même entre le Conseil fédéral et le comité Dalton.
Il y a un ultimatum qui était lancé. Vous cessez la grève ou on vous arrête. Le bâtiment dans lequel siégeait le comité Dalton était entouré par des soldats et les membres du comité Dalton auront la crainte d'une guerre civile à capituler. Oui, sur le moment... La grève s'est terminée par une capitulation. Ils ont donné l'ordre, enfin, pour minuit du jour suivant, vous sauvez en quelque sorte un peu la face, ils ont donné l'ordre pour minuit le 12, je crois, de reprendre le travail. Mais c'est le comité Dalton qui a donné cet ordre, sous injonction du Conseil fédéral, évidemment. Ben, comme ce n'est pas le Conseil fédéral qui l'avait déclenché, il n'a en quelque sorte pas le pouvoir non plus de le faire lui-même. De donner cet ordre. Mais ils pouvaient menacer les gens du comité Dalton de mesures très graves s'ils ne prenaient pas cette décision.
Le conflit a commencé quand la grève, c'est le résultat d'un conflit. Mais historiquement, ça a commencé quand?
Ah bon, en tout cas, en 1916, c'est là que les grèves. Je ne sais pas si que je montre ces statistiques, mais en 1914-15, il y a relativement peu de grèves. Par contre, les difficultés économiques du peuple suisse, par suite du manque de prévision aussi, de prévoyance du gouvernement, par suite de nombreux jours des soldats appelés sous les drapeaux, par suite du renchérissement de la vie chère, eh bien ça commence véritablement en 1916, hein, je crois, Michel. Les grèves.
16, c'est encore peu important. Ouais. 17, c'est...
17, là, c'est vraiment une explosion. Et 18, et ça, oui, aussi que ça continue. Mais parce que la grève, une des particularités de la grève générale, c'est d'être à la fois une grève économique et aussi une grève politique. Bon, pour ça, j'avais juste préparé...
Oui, en 1916, le gouvernement bolchevique n'était pas au pouvoir, donc il n'y a pas eu lieu d'avoir...
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en 1916, il n'y a pas la présence...
Oui, justement. Non. Après, bon, il y a eu les deux révolutions, l'une en février, l'une en novembre, c'est le novembre qui passait. Ça, ça a été dit, en fait, ici. En 7 octobre, mais elle a réellement été faite en mouvement, après comme il a dit, c'est dans le décalage du quartier. En 1905 aussi, il y a déjà eu une tentative de plus. Mais Lénine s'est cassé, et puis il est venu ici en Suisse ou en Suède d'abord.
Oui, il est parti. Non, mais effectivement, le mythe du complot bolchevique, ça vient en 18, c'est pas avant. Hein. Même en 17,
c'est 17, pas... c'est le complot germano-bolchevique, mais avant, on n'en parle pas. La présence des réfractaires et des déserteurs sur le territoire suisse ne fait pas l'objet d'une véritable campagne de presse avant 1917. Avant encore au début, le retour de Lénine, c'est des entrefilets, hein, c'est des gens qui sont peu connus, on ne sait même pas qui c'est. Lénine, Radek, c'est des gens qu'on voit partout, mais la plupart des gens ignorent.
En 1905, ils ont déjà été exilés. En tout cas, il y en a un des trois qui a fini au goulag. considéré, puis il s'est barré quoi, par la suite. Puis après, il est parti. Après, je ne sais pas si c'est servi, mais je ne sais pas. Je pense qu'il voulait me laisser en Détroit.
Ah oui, ils ont tous fait un peu de, effectivement, de prison. Vous avez raison, mais là, bon, avec, par rapport aux grèves dont le nombre augmente à partir de 1916, là, c'est sans rapport. Hein,
Bon, tout ce que je sais de souligner, en fait, c'était en 1905, il y avait déjà la révolution, donc quand le tsar Nicolas II était déjà là.
Tout à fait, oui. Mais donc, bon, avec, sans rapport du coup avec les grèves en Suisse, ni avec les revendications du comité d'Olten, hein, comme Michel Gaillard vous l'a dit. Donc, vous voyez dans ces revendications un mélange de revendications de type économique, mais aussi des revendications de type politique, hein, comme le. Voilà,
il y a un peu de populisme de gauche, hein. Et le monde à dette publique par les possédants, c'est faire payer les riches.
L'introduction d'un impôt progressif.
Il y a aussi cette idée de plus d'égalité, plus de justice sociale, et puis de, oui, de faire casquer. Il faut dire que pendant la guerre, il y a un certain nombre de personnes qui sont considérablement enrichies en Suisse. Il y a des caricatures de presse qui montrent d'ailleurs cette dichotomie, cette contradiction qu'il y a entre l'industrie suisse qui travaille pour tous les belligérants, parce qu'ils n'ont pas les mêmes restrictions qu'en 1940, ou en 1940, la Suisse, elle ne peut travailler que pour l'Allemagne, dans la mesure où elle est entièrement entourée par des pays qui sont contrôlés par l'Allemagne, ou qui ont, comme la France, un régime, instauré un régime de type autoritaire. Là, on n'est pas dans cette situation pour la guerre 14. Et puis, d'un autre côté, il y a un engagement sur le plan humanitaire de la Suisse qui est très important. C'est vrai que la Suisse joue un très grand rôle avec l'agence du prisonnier de guerre qui a monté le CICR. Et il y a des dessins qui montrent ça. D'un côté, on leur vend des obus, puis d'un autre côté, on envoie des gens pour soigner les blessés. La Suisse accueillait, par exemple, des grands blessés, des gazés, des gens comme ça, pour des séjours où ils pouvaient se retaper un peu, histoire de repartir. Oui.
On avait déjà un statut de neutralité,
sûr.
Oui, oui. Alors, la Suisse officiellement était neutre, mais ça empêchait pas.
1815, si vous voulez. Donc avant la Suisse moderne, on dit 1815. Voilà, c'est un peu une exigence des puissances victorieuses.
Ah oui, là, ils n'ont pas le choix. Si on veut parler d'ingérence étrangère, d'ailleurs, puisque c'est un mot qu'on aime bien employer, notamment à droite de l'échiquier politique, s'il y en a eu une, c'est pas celle des bolcheviques, mais c'est celle de la France, de l'Angleterre et d'Italie qui ont envoyé de véritables ultimatums aux autorités suisses, disant vous dégagez, vous brisez ces velléités, ces troubles qui s'annoncent, sinon c'est nous qui le faisons, on le fera à votre place. Donc là, il y a vraiment eu, réellement une ingérence dans la politique suisse, la Suisse n'était pas. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pareil. Entre 1940 et 1944, la Suisse fait pas ce qu'elle veut. Elle est quand même soumise à la pression de l'Allemagne. Puis à partir de 1944, avec les victoires alliées, c'est l'inverse. La Suisse est obligée de changer de politique. D'ailleurs, elle le fait, elle supplie, parce que c'est sa survie économique qui en dépend aussi. C'est évident.
J'ai deux mains qui se levaient, monsieur devant et madame derrière.
Oui, j'aurais. Pardon. Deux questions. J'ai lu récemment que les partis de droite, ou je ne sais qui, ont envoyé une délégation en Suède, avant la guerre générale, pour étudier comment la Suède avait réprimé des mouvements, des soulèvements en Suède. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment déjà une préparation vis-à-vis de ce type d'événement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est. J'ai mal lu, j'ai pas bien compris. Mais la deuxième question, c'est. Bon, le Parti Socialiste, la direction du Parti Socialiste, les syndicats étaient tout sauf révolutionnaires, mais quel retentissement y avait-il dans le mouvement, dans une minorité du mouvement ouvrier, de la révolution bolchevique, la révolution 17, octobre 17, et en plus de la paix de Brest-Litov? Dans un contexte où véritablement la guerre devenait insupportable, même si on était en Suisse pas touché directement par les faits armés, mais avec une mise à grandissante, etc. Est-ce qu'il y avait quand même un bon écho? On pourrait imaginer qu'il y en avait un, mais il y en avait-il un?
L'écho de la révolution bolchevique était considérable. Hein. Il ne faut pas oublier que quelques jours avant le déclenchement de la grève, le Parti socialiste, le 29 octobre, lance un appel à la population suisse pour célébrer le premier anniversaire de la prise du pouvoir par les bolcheviques, qui tombait le 7 novembre, et dans des termes qui sont... Il y a une rhétorique qu'on utilise à cette époque, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à prendre des armes, à faire la révolution. Mais je ne me souviens plus exactement des mots du texte, mais ils disaient qu'une grande lueur rouge s'est levée à l'Orient, peuple suisse, empare-toi de ton destin. Enfin, ce n'est pas un appel direct à prendre les armes contre les institutions suisses, mais c'est une rhétorique enflammée que beaucoup de gens utilisaient d'ailleurs, ce qui ne voulait pas dire qu'ils étaient prêts à aller jusque-là. Il ne faut pas oublier aussi l'attitude des dirigeants socialistes avant le déclenchement de la guerre en 1914, qui se jurent les uns les autres de faire la grève générale pour empêcher la guerre. C'était quand même le sens de tous les discours du leader socialiste. S'il y a des puissances impérialistes veulent se battre les unes avec les autres, nous les ouvriers, nous arrêterons le travail et nous empêcherons cette guerre par notre action, ce qui ne s'est pas produit.
Alors, la délégation en Suède, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais je sais qu'un historien qui est spécialiste des syndicats patronaux, Pierre Eschenberger, a montré que les patrons se préparent bien avant la grève, pendant presque une bonne partie de la période de la Première Guerre mondiale, et même au niveau international, prennent conseil auprès d'autres associations patronales à l'étranger, donc peut-être en Suède, je ne sais pas. Et ensuite de ça, je sais, peut-être aussi au niveau des polices, est-ce qu'il y avait déjà une collaboration
Non, ça
vient après, c'est pendant l'entre-deux-guerres. Mais... Là, je ne pourrais pas préciser. Ouais. Et puis, il y avait mademoiselle, ça va vraiment qu'elle lève la main.
Monsieur Dunard, vous savez que tout à l'heure, vous avez entendu un peu parler du fait que cette grève était le début aussi de la mythe, du mythe de la paix du travail. J'aurais voulu savoir si vous pouvez en dire un petit peu plus.
Oui, la slide que j'ai passée tout à l'heure, il y a vraiment les deux en un. Vous voyez ici le petit encart, hein, la paix du travail garantie aux employés, vous le savez lire. Alors, ça ne vient pas tout de suite. Les historiens ont aussi montré que la paix du travail, donc, elle remonte officiellement à 1937. En fait, c'est une convention collective un peu plus grande que les autres avec le secteur de l'horlogerie. Et puis de là, on a construit le mythe, en fait, parce que déjà des conventions collectives, il y en avait apparemment moins dans les années après 1937. Que dans bien d'autres pays européens qui ont compté beaucoup plus. Hein. Donc, numériquement, c'est un mythe qui est un peu fragile, hein, pour la Suisse. Et puis, je ne sais pas, c'était à savoir un peu dans le sens de ce que vous vouliez savoir, ce que je vous dis. De moi.
Par rapport à ça, c'est très intéressant. Vous avez mentionné au début la question du dictionnaire. Vous avez mentionné une loi dans le dictionnaire historique de la Suisse. Ça m'a toujours frappé, si vous allez lire la mention « Paix du travail » à l'intérieur du lycée historique de la Suisse, il part du fait que ça est devenu presque un élément constituant de l'identité nationale. Et c'est vraiment, ça se relie aussi à cette question d'associer à chaque fois des troubles, des grèves, des conditions sociales à des phénomènes soit importés, soit qui viennent de l'étranger.
Voilà, ça vient de l'étranger, comme la grève, c'est bon pour les Français et les Allemands. La postérité de la Suisse repose sur la paix du travail. C'est parce qu'on a peu de grève que le pays va bien. Donc ça, c'est un refrain qui est continuellement chanté par certains milieux sans aucune base scientifique. Il y a absolument, d'ailleurs ça manque, hein, si parmi vous il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans. Il n'y a pas de corrélation. Les spécialistes de la question, notamment Bernard Degen, qui a rédigé la plupart des articles du dictionnaire de la Suisse sur ces sujets, n'arrête pas de répéter, mais c'est faux. On a beau dire les choses, il y a des mythes qui ont la vie dure. Vous avez une question?
Je voulais savoir un peu plus en détail, en fait, l'impact que ça a eu sur le mouvement socialiste et le mouvement ouvrier à cette époque, tout cet anticommunisme et tout ça, parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu la scission au sein du Parti Socialiste entre les communistes et les socialistes juste après la grève, justement. Et comment ça a impacté? Est-ce que cette scission était liée aussi, peut-être, à cette mise sous pression? Quelles étaient un peu plus en détail les raisons? À part les raisons politiques, hein, plus par rapport en Suisse, vraiment au
contexte. En Suisse, peut-être la meilleure preuve que le mouvement ouvrier était constitué quand même pour la plupart de gens qui étaient des réformistes, qui souhaitaient une amélioration de leurs conditions de vie et qui ne remettaient pas en question, on le voit dans les revendications du comité de Dalton, le fonctionnement même de la démocratie suisse. Quand il y a eu scission, les communistes ont constitué un groupe, on peut dire un groupuscule. Il ne faut pas oublier qu'à Genève, c'est le Parti Socialiste qui est, par exemple, vraiment la figure de... Enfin, le parti de gauche, le parti de masse, les communistes, en 1932, ils sont 80. 80, c'est un groupuscule. Ils ne sont pas plus nombreux que les anarchistes. Donc, et les anarchistes ont une réelle base, on peut dire, ouvrière, avec le syndicalisme anarchiste de Tronchet, que les communistes n'ont pas. Je crois aussi, il ne faut pas oublier toute la propagande aussi qui s'est faite après la révolution bolchevique, après 1918, avec les récits qu'ont fait les Suisses qui remplaient la Russie. Il ne faut pas oublier qu'en Russie, il y avait une grande communauté suisse, notamment des gens qui étaient dans l'industrie du chocolat, l'horlogerie, etc., l'industrie de luxe, et qui en 1918 ont tout perdu et sont rentrés en Suisse en faisant des récits totalement effrayants sur la manière dont ils avaient été dépossédés de leurs biens, la manière dont ils avaient été maltraités, etc. Ça aussi, ça jouait quand même un rôle important. C'était pas tous des possédants, on va dire. Même si pour la plupart, il y avait des gens qui travaillaient dans l'hôtellerie, par exemple, et qui se sont retrouvés dans une situation très précaire après leur retour en Suisse. Donc ça aussi, ça joue un rôle, je pense, et qui a maintenu le Parti communiste suisse dans une situation groupusculaire toutes les années 20, les années 30, il faut bien dire, au moment où le véritable ennemi de la droite à l'époque, c'est la social-démocratie, il faut quand même le dire, ceux sur qui on tire à boulet rouge, par exemple à Genève, c'est Dicker et Nicole, qui ne sont pas communistes. Ils deviendront plus tard, mais dans les années 30, ils ne sont pas communistes. Léon Nicole fait son voyage en Union soviétique au printemps 1939. Donc, on peut dire tardivement. Il revient enthousiaste d'ailleurs. Et après, il sera très proche des communistes, mais il s'en séparera encore une deuxième fois au début des années 50. Donc, en Suisse, le communisme n'a jamais pris. C'est jamais devenu un mouvement de masse.
Alors c'est peut-être un effet qui prouve que la stratégie anticommuniste a bien fonctionné.
Ah oui.
Et puis, il y a eu deux effets finalement. C'est que voilà, ces communistes peu nombreux, ils n'ont pas non plus soutenu, ils n'ont pas contribué à défendre une autre vision de la grève, puisqu'ils disaient à peu près la même chose que les bourgeois en disant que c'était une grève, c'est un échec. Hein, parce qu'ils avaient peu de sympathie pour les sociaux-démocrates, et plus le siècle avance et moins ils en ont. Puis le deuxième effet de toute cette répression, c'est que les socialistes, peu à peu, vont rentrer dans le rang, mais très sérieusement. C'est-à-dire qu'au milieu des années 30, dans leur programme politique, ils abandonnent le principe de la lutte de classe, ça se passe en 1935, ils se rallient à la défense nationale, ça c'est quand même deux pas importants qui sont franchis, qui les distinguent alors irrémédiablement du communisme. Et puis l'autre chose, c'est que dans l'intégration progressive des socialistes dans le système politique suisse, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va, la période de la Deuxième Guerre mondiale qui va marquer encore un autre tournant avec en 1943 l'accession d'un socialiste au Conseil
fédéral. Stalingrad avait quand même montré la direction à prendre. On ne pouvait pas continuer une politique qui d'accommodement avec l'Allemagne. Il fallait commencer à donner des gages de puissance qui allait être victorieuse. Le Conseil fédéral n'était pas aveugle non plus. C'était bien joué d'ailleurs, parce que la droite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment les milieux sur lesquels j'ai étudié, Théodore Robert disait, à la fin de la guerre, il va se produire la même chose qu'en 1918. Tous les pays autour de nous sont ruinés. La résistance est essentiellement aux mains des communistes, ce qui n'était pas faux d'ailleurs en France, en Italie notamment. Ils vont prendre le pouvoir et nous, en Suisse, c'est la révolution qui va éclater. Théodore Robert va jusqu'à prendre contact avec Guizot en 1944 pour voir comment on s'organise à l'avance pour éviter la répétition des événements de 1918, perçus donc comme une tentative révolutionnaire. Et Guizot répond oui dans un premier temps, mais il a autour de lui Barbet, il a un état-major, de gens très avisés qui lui disent si vous vous mettez en chine avec ces gens-là, ils sont complètement grillés, les Allemands, les Italiens. Comme il était très vaniteux, disons, votre image de général suisse qui défend l'indépendance du pays va en prendre un sacré coup. Et disons, on fait marche arrière. Mais pas de sa volonté propre. Son premier mouvement, c'est de répondre avec même un certain enthousiasme. Parce que c'est pas l'intellectuel et il partage très probablement au fond de lui-même les mêmes. Il y a la même vision idéologique, c'est-à-dire qu'effectivement, la fin de la guerre, ça va être le chaos. En Suisse aussi, on va. Et ça, c'est pas du tout produit, au contraire. Mais le Conseil fédéral est plus avisé, dans la Deuxième Guerre mondiale, il joue plus finement. Hein.
Il y a encore une qui se lève, parce qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, donc dernièrement, on a quand même entendu parler des journaux de la P26. Qui était aussi un mouvement en fait, militaire qui s'exprimait à l'armée secrète. Ouais, à jouer à l'invasion communiste, en tout cas, durant encore de nombreuses années. Oui, c'est issu de cette période-là. Oui, c'est. En tout cas, ça participe de la même logique. Après, je crois qu'on a un peu exagéré l'importance de la P26, hein, si j'ai bien vu. Bon, le problème, c'est qu'elle fonctionnait en dehors d'un cadre sans contrôle parlementaire. En fait, ça, c'était quand même un problème principal. Par contre, après, leur marge véritable de manœuvre, je crois qu'ils n'étaient pas si bien armés que ça. Enfin, voilà, c'était quand même. Mais je pense, pour répondre à votre question, que ça répond tout à fait à la même dynamique. Hein. On retrouve un petit peu les mêmes mécanismes, bien que finalement, un des héritages de la grève, c'est la constitution ou la reconstitution de milices, de gardes civiques. Donc là, on ne peut pas avoir vraiment de corrélation avec la paix. 26,
ça oui, c'est un moment secret quand même.
Les gardes civiques qui se constituent un petit peu en retard par rapport à la grève, hein, qui devaient viser à prendre la place, par exemple, des cheminots, des conducteurs de tramway, pour éviter une paralysie du pays ou des villes, elles aussi, elles se constituent en dehors de tout cadre légal. Et puis, il y a un moment où il y a un peu une confusion des genres. Où c'est toléré, par exemple, dans le canton de Vaud, une milice qui a été tolérée assez longtemps. Puis ça, c'est une réactivation des gardes civiques qui existaient déjà au 19e siècle, même en tête.
C'est vrai que la P26, c'est autre chose.
C'est une bonne question, creuser.
Et vous permettez un souvenir dans le canton de Vaud, en 1945-1946, c'était leur j'étais collégien à Lausanne. Je me souviens d'avoir vu des affiches, mais grandes, grandissimes, Parti ouvrier populaire, grand meeting, orateur Muret et Nicole Coupe-Sagron, les copains qui sortirent. Moi, j'étais vissé chez moi. Et là, oh, c'était Nicole se racontait tout ça, mais c'était pas une fois, c'était chaque, tous les 6 mois, chaque année, à Lausanne. Et à Lausanne, le POP, ils ont la majorité aux élections. À Genève aussi, le parti de la gauche, gauche extrême, était très fort à ce moment-là. Bon, c'est un souvenir.
Ah oui, en 46, alors là, ils étaient tout auréolés. Le prestige de l'URSS a rejailli sur eux, qui avait été interdit au niveau fédéral en 1940, le Parti communiste. Donc là, effectivement, et puis Nicole, qui était un grand tribun, je crois, c'était un bon orateur, il pouvait bien avoir du succès. Alors,
ma mère avait son portrait sur sa table de nuit quand elle était adolescente. Et bon. Oui, ce qui va ruiner le POP, c'est évidemment l'émergence du rideau de fer qui tombe sur l'Europe entre 1946 et 1948. Et ça, encore une fois, ils vont apparaître, ils vont, non sans d'ailleurs sans fondement, ils vont apparaître comme le parti de l'étranger. Ils vont apparaître comme ils ont souvent procédé avec une certaine maladresse en soutenant. Mais c'était général. Il faut voir les manifestations communistes en France, en Italie, en 1945-1946, avec des gigantesques portraits de Staline et des chefs militaires soviétiques. C'est général. Et la prise de conscience de des réalités du régime soviétique, elle mettra énormément de temps à se faire au sein de la gauche. Les coups décisif étant d'ailleurs asséné en mai 68 par ceux qu'on appelait très justement les gauchistes, sur lesquels l'avant-ouvrière, le journal du Parti du Travail, tapait allègrement parce qu'ils attaquaient les communistes, la bureaucratie, le stalinisme, etc. etc. Vas-y.
Oui, une question sur la figure de Grimm. Dans quelle mesure ils sont présentés comme un peu le leader charismatique de la classe générale de 18, dans quelle mesure c'est le cas avec un comité d'automne qui est vraiment dépassé par sa base, et puis également, est-ce que dans la construction du mythe de Groupe Bolchevique, est-ce qu'on a beaucoup instrumentalisé sa figure, puisque avec l'affaire Grimm-Hoffmann, c'est vrai qu'il y a eu aussi des déplacements et des contacts avec la Russie, alors c'était donc à l'inverse, mais c'est lui qui avait essayé de négocier une paix séparée, du coup il y avait quelque chose de vrai dessous, qu'il y avait des contacts. Si on a essayé d'instrumentaliser cette affaire-là et sa figure pour construire.
Mais ça, on s'est posé la question en préparant l'intervention. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu après 18 des rappels de cette affaire Grimm-Hoffmann. Mais bon, je ne suis pas en même temps vraiment spécialiste de ça. Après, le rappel de ses connivences. Effectivement, quoi, il a quand même contribué à accueillir les conférences de Quintal.
Zimmerwald et Quintal. Il a été nommé d'ailleurs président, chef du secrétariat de Quintal pour maintenir la continuité. Mais je crois que c'était un pacifiste sincère. Il ne faut pas oublier que le mouvement Zimmerwaldien, ce n'est pas un mouvement spécifiquement bolchevique. Les bolcheviques, d'ailleurs, essayent d'instrumentaliser à leur propre fin, mais ils ne sont pas forcément majoritaires au sein de ce mouvement. Il ne faut quand même pas oublier qu'une telle boucherie comme la guerre de 14 pouvait impressionner des gens qui n'étaient pas particulièrement communistes. Romain Rolland est peut-être l'exemple le plus marquant. Voilà quelqu'un qui débarque en Suisse peu après le début de la guerre et qui écrit pour s'insurger contre cette hécatombe de la jeunesse européenne, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. En 1914, les premières semaines, c'est l'état-major français publie d'ailleurs, au mois d'octobre, au mois de novembre, des prévisions, disant si on continue à avoir autant de pertes, on n'aura plus personne pour la faire cette guerre. Les pertes les plus paradoxalement célèbres, enregistrés notamment par les Français, puisqu'ils étaient en retard sur le plan de l'armement, ils n'avaient pas de mitrailleuses, et ils étaient habillés, pas l'oublier, avec des pantalons bleus et des rayures rouges sur le côté. C'est sûr, mais dans les blés qui sont jaunes, face à des mitrailleuses, c'est pas terrible. Comme ils sont... Je me rappelle plus les pertes, mais les premières semaines, c'est 100 000 morts, quoi, en l'espace de 2-3 semaines. 100 000 jeunes hommes entre 20 et 30 ans. La guerre touche surtout cette partie-là de la population. Il en va de même pour les Allemands, les Italiens. Les Italiens, c'est encore pire parce qu'ils avaient un commandement qui était à la fois marié à l'incompétence avec l'arrogance, et qui utilisait des méthodes encore comme la décimation. C'est quelque chose de terrible. Donc, je ne sais pas.
Mais dans la constitution de sa figure politique, même les tentatives de destruction de sa figure politique par ses ennemis, il y a peu de rappels, il semble, de son œuvre pacifiste. Là, ça passe un peu à la trappe. Par contre, c'est quand même quelqu'un qui a une longévité politique assez énorme. C'est un des hommes politiques principaux du XXe siècle. Je pense que c'est pas tellement... En tout cas, du premier XXe siècle, c'est pas exagéré de le dire. Je crois qu'il est décédé dans les années 50. Et je crois qu'il n'a pratiquement pas cessé de siéger longtemps au Conseil national, en tout cas, c'est sûr. Et finalement, il a quand même pu accéder au poste, à la présidence du Conseil national. Ouais. Je ne sais plus en quelle année, mais peut-être en 46.
Mais c'est vrai qu'on ne sait pas tout sur les rapports Green et Hoffmann. Hoffmann, c'est un personnage complexe aussi. C'est quelqu'un qui est germanophile, c'est entendu. Mais pendant l'été 1917, après au printemps 1917, les Allemands peuvent espérer une victoire encore. Parce que la révolution russe, finalement, c'est pas forcément un avantage sur le plan de la conduite de la guerre. Parce que très rapidement, l'armée russe va se décomposer. D'ailleurs, Lénine est très sévère sur cette affaire. C'est les services secrets français, d'ailleurs, qui interceptent ce télégramme et qui le donnent au gouvernement provisoire russe, qui à l'époque est dominé par la gauche, mais par la gauche, on va dire, patriotique, et pour discréditer, en quelque sorte, Lénine. Et ça fonctionne d'une certaine façon. C'est pour ça que Lénine est furieux. Les bolcheviks doivent se cacher. En mai, juin 1917, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait misé sur une victoire aussi rapide, sur une prise du pouvoir par les bolcheviks. Pendant l'été 1917, il doit se cacher en Finlande. C'est le parti vraiment pourchassé. Et le succès des bolcheviks, il est vraiment dû à la force des trois mots d'ordre que Lénine a réussi à imposer au parti. La paix tout de suite. La terre aux paysans, tout pouvoir aux soviets. Et c'est des mots d'ordre qui parlent aux masses pays. La Russie est un pays essentiellement paysan à cette époque, et ça leur parle. Alors même s'il n'avait pas du tout l'intention de confier le pouvoir aux soviets, ni de laisser la terre libre de disposition des paysans, c'était quand même très fort. Et en face, qu'est-ce qu'on proposait? La guerre, la conduite de la poursuite de la guerre. La Russie est probablement le pays qui a payé le tribut le plus lourd dans la Première Guerre mondiale, avec des chefs aussi d'une remarquable incompétence pour beaucoup d'entre eux, l'arrogance de l'aristocratie, l'impréparation quand même, le mépris du soldat. Puis l'hiver russe, c'est quand même quelque chose, hein, je veux dire. Se battre sur un front aussi étendu qui va de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire, quasiment, en 1916, avec l'entrée en guerre de la Roumanie, plus se battre en Caucase contre les Turcs. Il faut essayer d'imaginer cette sorte de souffrance pour comprendre un peu le succès de la propagande bolchevique pendant l'été 1917. C'est ça, sa force. C'est des mots d'ordre qui sont percutants puis qui répondent exactement à ce que les gens veulent à ce moment-là, la majorité des gens. Sinon, ça n'aurait pas été possible. La prise du pouvoir par les bolcheviks, c'est quelques milliers de combattants. En face, il n'y a rien. Il y a un bataillon féminin, il y a quelques cadets, des jeunes aristocrates, mais il n'y a rien. En plus, elle a annoncé, littéralement, elle est préparée aux yeux et au-dessus de tous. c'est pas du tout un événement secret. C'est très singulier. Et dans un premier temps, c'est relativement bien accueilli, en tout cas en Russie, dans les premières semaines. L'opposition, la contre-révolution s'organise en 1918 quand même, et avec un certain temps. Puis il y a des épisodes évidemment qui la favorisent, comme l'appelle Brest-Litovsk, cette fois c'est le pouvoir bolchevique qui est mis sous pression, qui se rend parfaitement compte qu'il faut conclure la paix à n'importe quel prix, même au prix de pertes territoriales immenses, hein, toute l'Ukraine, toute la Biélorussie, les États baltes, enfin une grande partie de la Russie d'Europe qui passe sous contrôle allemand. C'est clair que les milieux patriotiques, c'est quand même une noix difficile à avaler.